Vendredi soir à Castellane, on peut retrouver un événement exceptionnel et unique à Castellane. En tout cas, mon village invite l'humour. C'est un festival avec trois humoristes qui vont se succéder sur scène après une scène ouverte. Et nous avons la chance d'avoir en direct au micro de Radio Verdon Stéphane Boucli. C'est l'un des organisateurs ou l'organisateur d'ailleurs. L'organisateur de Mon Village invite l'humour et ça se déroule vendredi à Castellane. Mais après, vous pouvez retrouver le même concept un petit peu partout. J'ai cru entendre que vous n'étiez pas très très loin prochainement dans le Var.
Oui, on revient un mois après à peu près à Seyans.
Voilà, donc c'est en effet, c'est pas très loin. Alors l'idée, c'est de proposer des one-man show en l'occurrence. Enfin là, il y aura trois humoristes différents, des one-man show dans les villages, dans des endroits où peut-être on peut retrouver des concerts, on peut retrouver des salles de spectacle, mais c'est vrai que des spectacles de stand-up, quand même vachement plus rarement.
Alors c'est même plus complet que ça, parce que donc c'est un festival d'humour où vous avez trois artistes qui se succèdent. Alors oui, effectivement, je vais proposer un artiste de stand-up ou de one-man show parce que quand on va voir un spectacle d'humour, c'est quand même ce qu'on s'attend à venir voir. Mais après, j'essaie de choisir trois artistes d'univers différents. Donc après, vous avez un humoriste, là, si on prend l'exemple de Castellane, effectivement, vous allez avoir un one-man show. Vous allez avoir un artiste qui va avoir du texte, donc ça va être beaucoup de jeux de mots, de calembours, de choses comme ça, et des touches d'humour noir. Et après, vous allez avoir un artiste totalement différent. Généralement, j'essaie d'amener un artiste qui va faire, par exemple, donc là, ce sera un imitateur, je vous l'annonce. Mais j'essaie, justement, d'avoir un imitateur, un hypnotiseur, un mentaliste, un magicien, un clown, un ventriloque. Vous voyez, quelque chose de radicalement différent, qui reste drôle, de l'humour. Mais, en fait, si vous voulez, ça va permettre de cibler l'ensemble du public. Parce que si je vous mets trois artistes qui aiment, par exemple, qui vont faire des galeries de personnages, bon, si vous aimez les transformations, c'est génial. Si c'est quelque chose qui ne vous emballe pas, vous allez passer une sale soirée. Donc là, au moins, on en a pour tout le monde. Et on a tous les styles d'humour qui vont être là.
Alors, est-ce que c'est plus dans les styles d'humour ou dans la manière de l'amener? Parce qu'en effet, on peut faire de la magie avec de l'humour, on peut faire de la ventriloquie avec de l'humour, mais pas obligatoirement. Ça peut être aussi juste des moyens différents. Ce n'est pas forcément des humours différents.
Voilà, là en fait, si vous voulez, si vous avez, comme je vous disais, vous avez du one-man show, ce qui est quelque chose d'assez classique, ça aurait pu être du stand-up aussi, mais après, donc ça, en fait...
C'est quoi la différence show,
Alors le stand-up, en fait, c'est un gars qui est tout seul sur scène et qui raconte des blagues. Alors que le one-man show, c'est un gars qui est tout seul sur scène et qui raconte des blagues.
Ah ouais, je vois bien, c'est pas... C'est fin, la différence.
Non, la réalité du... Si vous voulez, le one-man show, c'est un peu plus construit. Il y a une sorte d'histoire. Il peut y avoir des galeries de personnages, des choses comme ça qui sont intégrées. Il y a des effets. Alors que le stand-up, pour le coup, c'est vraiment le gars tout seul avec son micro. Souvent un micro sur pied à fil. Il y a juste une lumière. Il n'y a pas d'artifice. Il n'y a rien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment... Et souvent, il va réagir sur l'actualité ou sur ce qui se passe dans la salle. Il y a beaucoup de parts d'impro. Vous voyez, c'est pas... Il peut y avoir un peu d'écriture, des vannes qui sont écrites, mais principalement, ça va être de la réaction à ce qui se produit devant lui, quoi.
D'accord, donc c'est ça, le stand-up, quoi. Peut-être des spectacles qui sont moins écrits, moins construits et qui sont plus dans la spontanéité, quoi.
Oui, par exemple, les blagues, ils vont passer... je ne sais pas si vous avez remarqué, mais voilà. Et il va passer, de ce qu'il a vécu sur Tinder à un voyage dans le RER.
Ok.
Là, dans le one-man show, non, il faut qu'il y ait une transition qui... vous passiez de l'un à l'autre, quoi. Donc voilà, quoi. Ça va être la principale. Après, la frontière, elle est parfois assez floue et on peut basculer de l'un à l'autre dans le même spectacle, voilà, quoi. Donc c'est vrai que j'ai toujours un artiste qui fait ça. Après, j'aime bien avoir un artiste qui a du texte. Et puis parallèlement à ça, après, ça peut être de l'art visuel. Mais c'est vraiment. Après, j'évite aussi l'humour communautaire parce que l'humour communautaire, c'est bien qu'il y en ait. Mais je trouve que c'est clivant, c'est-à-dire que si par exemple vous faites un spectacle sur les véganes, c'est intéressant si vous-même vous êtes végane, vous avez cette conscience-là. Tous ceux qui ça intéresse pas, ils vont s'ennuyer pendant une demi-heure. Donc voilà, tout ce qui est communautaire, j'ai pris les véganes, mais ça marche pour tout. Hein. Et voilà quoi.
Oui, c'est pour vexer que les véganes que vous les avez pris en exemple.
Ils peuvent se vexer, de toute façon ils n'auront pas l'énergie pour pouvoir se battre.
Est-ce que c'est plus compliqué de sélectionner des artistes humoristes quand on vient dans un village? Parce que dans une grande ville, il va y avoir toujours une partie des habitants qui va être plus à même à aller vers un genre d'humour. Du coup, ben, on est sûr d'avoir au moins une petite partie des habitants qui seront là. Alors que dans un village, on s'adresse à moins de personnes au départ. Et du coup, la quote-part de personnes intéressées va être encore plus petite. Alors, est-ce qu'on essaye de proposer un humour un petit peu plus universel?
Alors, il y a oui et non. C'est-à-dire que est-ce que c'est plus difficile de les choisir? Non, parce que il y en a beaucoup qui viennent d'eux-mêmes, et puis parce que moi je fais la sélection de manière très naturelle. Et précisément par rapport à ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que il y a des artistes qui sont très bons sur Paris, qui cartonnent, que j'emmènerai jamais dans les villages, pour deux raisons. La première, c'est que il y en a beaucoup qui ne veulent pas, parce que il y a la facilité de Paris, parce qu'il y a la facilité de Paris d'avoir le public qui correspond qu'ils font.
Et voilà.
C'est la première chose. Et surtout parce qu'ils sont dans la tête que c'est à Paris qu'un jour ils seront repérés et qu'ils seront des stars. Ce qui est une connerie absolue, hein, parce que voilà. Mais du coup, ils ne jurent que par Paris. Vous ne les verrez pas à Bordeaux, vous ne les verrez pas à Marseille, ou alors très occasionnellement, parce que leur vie c'est Paris, parce qu'ils veulent se faire repérer par les producteurs qui, pour eux, tout se passe à Paris. Donc voilà. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième, c'est parce que oui, il y a des sujets qui, enfin, faut que ça parle. Si vous venez dans les villages pour parler du RER ou de Tinder, vous allez faire un flop. Vous allez faire un flop tout simplement parce que ça ne parle à personne. Ça parle à personne. Donc, alors je dis pas qu'il faut. J'en ai dans le catalogue. Hein, j'ai par exemple un ancien agriculteur, Jean-Baptiste, qui est un ancien agriculteur qui s'est reconverti dans l'humour. Je vous dis pas qu'il faut l'amener sur tous les villages parce que on est cohérent, quoi. Mais il faut quand même que ce soit des thèmes, comme vous dites, plus universels, qui vont parler à tout le monde, ou alors, au contraire, l'absence totale de thèmes. Humoriste qui va faire un spectacle, il va un peu raconter sa vie. Sa vie n'est qu'un prétexte à raconter une histoire, en fait, si vous voulez. Ce qui est intéressant dans ce qu'il fait, c'est toutes les blagues qui remplissent le spectacle, en fait. Et la force d'un bon humoriste, c'est peu importe l'histoire. L'histoire doit être qu'un prétexte. Malheureusement, aujourd'hui, c'est vrai qu'en humour, vous avez des humoristes où l'histoire fait 80% du spectacle. Donc on rit une dizaine de fois en une heure et demie, quoi. C'est pas beaucoup.
Qu'on pourrait avoir un spectacle complet où on peut y avoir de l'émotion, du rire, des larmes. Évidemment. C'est à partir du moment où on va avoir de l'humour. Est-ce qu'il faut qu'on rigole vraiment 80% du temps, ou est-ce que y a quand même une courbe de progression? Il va y avoir des moments plus forts, des moments plus faibles.
C'est ce que je vous dis, c'est-à-dire que je veux vraiment amener différents humours. Quand je dis je veux un humour à texte, c'est parce que je veux qu'il y ait, alors soit effectivement quelque chose de très efficace en matière de rire, ou alors, là, alors je vais vous donner un exemple très concret. Il y a un artiste qui sera là ce vendredi, où vous avez ce qu'il va faire sur 30 minutes, c'est très efficace. C'est-à-dire vous allez avoir du rire non-stop. Ça, c'est ce qu'il fait sur 30 minutes.
Ouais.
En revanche, si vous allez voir ce même artiste, avec ce même spectacle, mais dans son intégralité, il se réserve à peu près un tiers du spectacle à la fin, où là, ça va être quelque chose de beaucoup plus travaillé, où c'est plus profond. Alors, ça ne veut pas dire que vous rigolez pas pendant une demi-heure. Hein. C'est-à-dire que pendant cette demi-heure-là, il y a deux thèmes qu'il va explorer, où il va pouvoir prendre le temps d'aller plus dans la profondeur, d'amener les gens à réfléchir sur ce thème-là. Alors, c'est pas forcément trop dans l'émotion, mais c'est dans la réflexion, là, pour le coup. Et l'idée, elle est là, parce que l'humour, c'est aussi ça, c'est faire réfléchir les gens, ouvrir des débats, c'est des choses comme ça, quoi. Donc ça, c'est intéressant dans l'humour, et ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Malheureusement, c'est vrai que c'est quelque chose qui demande un petit peu de temps et qui est difficile d'amener dans le village. Je l'ai vu récemment en faisant venir un artiste comme ça, qui est un satirique, qui pour moi est le meilleur du moment. Il me rappelle, pour tout vous dire, les plaidoiries de Desproges.
De Desproges, ouais.
Il y a une finesse d'écriture qui est exceptionnelle. Par contre, ça ne prend pas dans les villages. Surtout, en plus, avec ce concept-là qui est d'amener trois humoristes différents, s'il passe, par exemple, derrière un humoriste où il va y avoir de l'interactivité avec le public, il va beaucoup jouer avec le public, il va y avoir du visuel, il va y avoir du dynamisme, et lui, derrière, ça retombe un peu comme un soufflé, vous voyez l'ambiance. Parce que, justement, il va vous amener à réfléchir à des choses. Il va, vous voyez, vous tapez pas sur les cuisses, mais dans votre tête, vous dites, ah là là, qu'est-ce que c'est bon, quoi. Vous voyez, il y a beaucoup de finesse d'écriture. Mmh. Donc voilà. Donc c'est ça l'idée, c'est vraiment d'amener des univers différents pour que mais aussi pour éduquer les gens, quoi. Quand je vous dis tout à l'heure, j'ai un humoriste qui fait de l'humour noir, l'humour noir, c'est quelque chose qui devient presque interdit. Et moi, je fais partie des gens qui pensent que je suis aussi amoureux de l'humour, et je me dis que si vous ne, si on se résigne et qu'on arrête de faire de l'humour noir, c'est perdu, parce que le seul moyen de faire accepter l'humour noir, c'est d'éduquer les gens à ce qu'est l'humour. Et si s'ils acceptent l'idée qu'on peut rire de tout, on y arrivera. Si à un moment donné, on se met dans l'idée, non, mais on peut plus rire de ceci, de cela, de machin, je veux dire, toutes les blagues, je veux dire, demain, si je fais une blague sur un charpentier, je vais faire rire 99% des gens.
Mais si j'ai un charpentier dans la salle, il peut se sentir
touché. C'est ça. Voilà, sauf le charpentier qui peut, lui, se sentir choqué. Donc, on arrivera toujours, quelle que soit la blague, quel que soit le sujet, à toucher quelqu'un et à faire en sorte que ben ça lui fasse mal, quoi. Mais à un moment donné, est-ce qu'on doit s'arrêter à cette personne-là? Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit être méchant. Vous voyez, si on prend l'actualité, la blague de Chris Rock était idiote. D'ailleurs, enfin, j'ai même pas vu la blague, quoi. Donc, je pense que justement, quand vous travaillez dans l'humour noir, c'est quelque chose que je connais un peu, c'est plus vous avez une vanne qui vous arrive et que vous sentez qu'elle est puissante, qu'elle est violente, et plus vous devez travailler, c'est ce qui manque aujourd'hui, le travail, bien sûr, plus vous devez travailler pour la réécrire, pour l'enrober de façon à ce qu'elle blesse personne. Et je peux vous dire que là, j'ai un artiste où dans son spectacle, il va très très loin, que ce soit avec les musulmans ou avec les juifs, qui sont quand même des communautés où il est réputé qu'on peut pas en rire. Il y a une phrase dans son spectacle où l'artiste invite même le public à se réjouir de la Shoah.
Ouais.
Faut être capable de l'amener, ça, sur scène, quoi. Alors, bien sûr, il le fait dans le but de créer le malaise, ça marche très bien. Mais ça va, c'est pour vous dire à quel point ça va très très loin, et il n'est pas embêté. Il n'est pas embêté parce que ça a été écrit de façon à ce que, enfin, on est dans l'absurde et enfin, il n'y a aucune crédibilité, quoi, dans ce qu'il dit, quoi. On peut pas y croire, on peut pas penser un instant qu'il pense ce qu'il dit. Il n'y a aucune ambiguïté, quoi. La façon dont la phrase est tournée, on le sait, quoi. On peut pas se choquer de ça, parce qu'on sait que, voilà, il ne pense pas une seconde et que c'est juste pour la blague, quoi. Voilà. Et c'est ça le gros problème de l'humour aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de, malheureusement, hein, je vais être encore cynique sur le métier, mais il y a beaucoup de jeunes qui se lancent dans l'humour et qui s'imaginent que c'est facile. Faire rire les gens, je le fais dans mon salon, je vais le faire sur scène. Mais ça demande du travail. La vérité, c'est que ça demande du travail. Et vous regardez toutes les blagues qui font polémique, souvent c'est parce qu'elles ont été mal écrites, elles ont été mal amenées, et y a une ambiguïté. Regardez ce qui se passe avec Dieudonné, le problème de Dieudonné. Alors, je dis pas qu'il travaille pas bien, lui. Hein. Lui, pour le coup, il travaille très très bien, mais lui, c'est le personnage qui crée l'ambiguïté. Parce que il a des accointances avec des gens pas recommandables, il a eu des propos hors spectacle humoristique qui étaient très très limites, et parfois même au-delà de la limite, qui fait que quand il vient à faire une blague sur scène, on sait pas,
on assimile, et oui, pas. Évidemment.
Et quand vous rajoutez à ça la pointe de provocation qu'il a, je veux dire, il aime provoquer, il aime créer le malaise et tout ça, donc il en joue beaucoup, forcément, c'est obligé que ça fasse des étincelles et que ça pose question, quoi. Voilà. Putain, j'arrive même à parler à Dieudonné dans des
instants. Dis donc, ouais. On a vu qu'il y avait des humours très différents, et peut-être un humour de la ville et un humour de la campagne. Là, en l'occurrence, dans les trois artistes que vous proposez, il n'y a que des garçons.
Alors, c'est un hasard. C'est un pur hasard, parce qu'en fait, je choisis des humoristes de plusieurs façons. Comme je vous disais, voilà, j'essaye qu'ils soient complémentaires pour apporter de l'humour à tous. Et puis, j'essaye aussi, pour plein de raisons, de privilégier les locaux. Pour des raisons économiques, évidemment, mais aussi écologiques, parce qu'il y a moins de déplacements, et puis pour des raisons de logistique, c'est-à-dire que là, nous, chaque artiste va présenter 30 minutes, s'il y en a un qui plaît et que la commune veut voir plus, c'est facile de le faire revenir. S'il vient du fin fond de la Bretagne, faut lui payer le déplacement, l'hôtel, etc., ça complique, quoi. Donc voilà, c'est purement, il se trouve que sur le secteur, des humoristes femmes, j'en connais pas.
Ah, d'accord. Sur le secteur, ça veut dire quoi, région PACA?
Ouais, sur la région PACA, j'ai pas d'humoristes femmes dans mon réseau qui a grâce à mes yeux. Il y en a, hein, mais soit elles sont pas accessibles parce que elles font déjà leur leur petit bout de chemin de leur côté, elles n'ont pas besoin de moi et je n'ai pas besoin d'elles. Et, ou soit, pour moi, elles n'ont pas encore le niveau pour pouvoir être proposées en spectacle. Alors attention, parce que Castellane, il y a une petite particularité, il y aura quand même des femmes, parce que par exemple, avant le spectacle, il y a une petite particularité à Castellane, c'est qu'on va, en collaboration avec les humoristes de Cannes, proposer un tremplin d'humour. Et là, pour le coup, il y aura 4 artistes. Et là, pour le coup, j'ai demandé à ce qu'il y ait une parité. Parce que là, pour un tremplin, on a des humoristes dans la région, des femmes qui tiennent la route pour des tremplins, quoi, pour faire des sketchs. Il y en a un paquet. Quoi. Donc là, pour le coup, on va faire notre possible pour avoir une parité. Mais voilà. Quoi.
Est-ce que après, ça donne une nouvelle visibilité, du coup, ce genre d'organisation avec des spectacles, enfin des festivals un petit peu itinérants comme ça à la carte, est-ce que ça peut donner un espace de visibilité à des personnes qui n'en auraient pas forcément et qui pourtant sont en mesure de proposer quelque chose de qualité ?
Alors c'est exactement l'idée originale du festival. L'idée originale, c'est moi j'ai rencontré sur des scènes à Paris ou en province des artistes qui étaient très très bons. Et en plus, qui étaient des personnes super sympas. Et moi, ça m'a choqué en tant que spectateur de me dire, mais comment ça se fait que ce gars-là, cette fille-là, soit si bonne sur scène et que il n'ait pas la visibilité qu'il mérite quand on voit, par exemple, qu'Eddie Simon fait carrière, quoi. Donc, ça balance, hein. Mais c'est vrai que ça me troublait, quoi. Je me dis quand même, à la télé, il y a des choses qu'on voit qui sont vraiment pas terribles, quoi. On se demande comment le gars il est arrivé là. Bon, après, on sait qu'il y a encore des producteurs qui couchent, mais c'est pas le truc, c'est vrai que c'est perturbant de voir qu'il y a des gens qui arrivent à être visibles, alors que bon, c'est pas très qualitatif ce qu'ils proposent. Ça tourne un peu en rond. Et puis à côté de ça, vous avez des super artistes qui sont très très bons, qui retournent les salles à chaque fois qu'ils jouent. Mais qui n'ont pas de visibilité. Et là, je me suis dit, ce serait peut-être faut leur donner de la visibilité à ces gens-là, parce qu'en tout cas, faut leur donner les moyens de faire en sorte qu'ils puissent faire rire du monde, parce qu'ils ont vraiment ce super pouvoir-là de faire rire des gens. Et faut le faire. Il y a trop de gens qui ont besoin de rire. Donc, c'est né de ça. C'est né justement de ça, c'est de donner de la visibilité. Et je pense que c'est bien de donner de la visibilité à des artistes quand ils sont bons sur scène.
Est-ce qu'à un moment, on peut être juste dépassé ? Est-ce que quand on fait de l'humour, on peut devenir ringard parce qu'on n'arrive pas à être dans l'air du temps et dans la société actuelle ? Ou est-ce que l'humour, évidemment, un certain type d'humour, peut toujours fonctionner ?
Alors oui, je pense que oui, on peut devenir ringard. D'ailleurs, il y a des humoristes aujourd'hui qu'on voit à la télé qui ne sont pas drôles, alors qu'ils l'ont été. Je veux dire, ils ne sont pas devenus connus non plus que par hasard. Il n'y a pas que des gens qui se sont agenouillés dans des bureaux. Il y a aussi des gens qui sont devenus connus parce qu'ils avaient du talent. Ce que je veux dire, arrive un moment donné où vous êtes connu. Donc du coup, vous sortez de chez vous, on vous amène à la salle de spectacle. Vous repartez de la salle de spectacle, on vous amène à l'hôtel. Le petit déjeuner, vous êtes amené à la chambre. Enfin, vous ne vivez plus, quoi. Enfin, vous vivez plus. C'est une autre vie. C'est-à-dire, vous ne vivez plus avec les gens, avec le peuple, entre guillemets. Et du coup, vous n'avez plus cette inspiration du quotidien qui vous permet d'écrire les spectacles. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, des artistes qui sont connus et pour qui c'est facile, ont du mal à se renouveler. C'est tout simplement parce qu'ils n'ont plus l'inspiration, parce qu'ils n'ont plus la vie qui leur amenait cette inspiration-là. Quand vous n'avez plus d'efforts à faire, vous n'avez plus rien auquel peut s'identifier le spectateur et se reconnaître et donc être ému et touché par ce que vous racontez, quoi.
Alors, vendredi soir, on va donc retrouver 3 artistes sur scène. Un des 3 artistes, c'est Anthony Aguilar. Comment vous l'avez rencontré ?
Anthony Aguilar, on s'est rencontré sur un autre festival auquel je participais, qui n'a rien à voir avec Mon Village Invite Humour. Lui était présentateur, il présentait un tremplin de jeunes humoristes. Je m'étais essayé à ce tremplin en tant qu'humoriste d'ailleurs. J'avais gagné le tremplin d'ailleurs, et on s'est rencontrés à cette occasion-là. Ça a tout de suite matché entre nous, et on a eu plusieurs fois l'occasion de se revoir. Alors, on avait un humour qui était assez compatible, lui et moi, et donc voilà, il a été parmi les premiers que j'ai contactés pour participer au tremplin. Eh ben, ça... au festival.
Anthony Aguilar est l'un des humoristes que vous pourrez retrouver lors de cette fameuse soirée, Soirée du Rire. Nous avons la chance de le retrouver au micro de Radio Verdon et nous allons parler rire, évidemment, et stand-up. Bonjour.
Eh bien, le bonjour.
Alors, c'est un peu, c'est un peu casse-gueule quand même, le rire.
Pourquoi c'est casse-gueule ?
Parce qu'on a tous tellement des humours différents. Alors, dans une grande ville, évidemment, on peut forcément retrouver un petit peu son public, mais dans des zones un petit peu plus désertiques, comme c'est énormément, il n'y a pas un humour en fin de compte, il y a des humours, eh bien, ça doit être un petit peu plus compliqué quand même d'être accessible à tout le monde, parce que un humour universel doit être un petit peu lisse quand même.
Ah, moi, je suis pas pour hein, ce type d'humour. Moi, je garde mon style. Alors, moi, je pars du principe vraiment, ceux qui viennent me voir, c'est que déjà, normalement, ils ont un peu lu l'affiche, ils ont un peu lu le synopsis, ils savent un petit peu ce qu'ils vont regarder. Déjà, je pars sur ce principe. Et effectivement, de temps en temps, ça arrive hein, à tous les humoristes au cours de leur carrière. Et à un moment donné, ça rigole pas, ça passe pas, il y a des gens qui s'en vont. Bah, faut trouver des solutions. Moi, c'est ce que j'explique. Je donne des cours aussi de stand-up. C'est ce que je dis à mes élèves. Si tu vois que ça rigole pas, peut-être passe au sketch suivant, pars peut-être en impro, essaye de changer. En permanence, ce qu'on fait beaucoup avec le stand-up, c'est qu'on est face au public, on est seul face à ce public, et il faut trouver des solutions. Les gens ont payé pour rigoler, faut les faire rire. On trouve des solutions. Voilà.
Est-ce qu'il y a des humours différents en fonction du public, du lieu ? Est-ce qu'il y a un humour des villes, un humour des champs ? Est-ce qu'il y a un humour de vieux, un humour de jeunes ?
Oui, bien sûr. Moi, je sais que partout où je joue, donc je suis amené à m'adapter. C'est-à-dire que même si le sketch reste pratiquement pareil, je vais peut-être pas utiliser les mêmes mots dans le sud que dans le nord. Je joue régulièrement, effectivement, pour des associations où c'est plutôt du 60 et plus. Il m'arrive de jouer aussi dans des bars pour des étudiants. Je vais adapter mon langage, je vais adapter mon univers parce que, effectivement, c'est pas du tout la même époque, c'est pas du tout les mêmes coutumes. Donc on s'adapte. Après, est-ce qu'il y a vraiment un humour différent ? C'est vrai qu'il y a un humour qui est très parisien, on va dire, voilà, parisien. Les vannes du genre, et vous avez vu dans le métro ou des choses de leur quotidien, chose qu'il n'y a pas effectivement dans des petites villes de 2-3 000 habitants. Donc on s'adapte en fait.
Au niveau donc des spectateurs, il y a certainement des humours différents. Et est-ce que au niveau des artistes, hein, il y a un humour de femme, de stand-upeuse, et un humour d'homme, de stand-upeur? Est-ce que à l'heure actuelle, en plus il y a de plus en plus de femmes quand même hein, dans votre métier, est-ce que à l'heure actuelle, on peut se dire que les femmes vont plus aller de ce côté-là et les hommes de ce côté-là?
Alors moi, encore une fois, je vais revenir sur mes élèves. Surtout pas. Moi, je pars du principe, c'est pas parce que t'es une femme que tu dois t'empêcher de faire certaines choses. Et pareil pour les mecs. En fait, vraiment, la scène pour moi, c'est vraiment une démocratie dans la démocratie. Et justement, les filles qui vont s'interdire de faire certaines choses, je leur dis surtout pas. T'es sur cette scène, si tu veux en parler, tu en parles. À partir du moment où c'est drôle, vas-y, fonce. Donc, mais malheureusement, je rebondis sur votre question, il y a encore beaucoup de filles encore qui s'interdisent, même si vous le dites, hein, si bien, il y a une démocratisation de l'humour chez les femmes, il y a de plus en plus de nanas qui montent sur scène. Il y en a encore trop qui s'interdisent. Ouais, mais tu comprends, parce que je suis une fille, ça va mal passer. Non, justement, c'est en faisant ça que tu vas empêcher les nanas de dire ce qu'elles veulent et de faire rire avec leur propre humour. Il faut pas se changer, on a un type d'humour, on a un texte, on veut faire des choses sur scène, et on les fait.
Alors justement, j'ai l'impression contraire que, en tout cas, les humoristes filles que l'on retrouve dans les médias, je les trouve assez efficaces, enfin plus trash que les garçons.
Alors oui, je pense que vous pensez à des gens comme peut-être Blanche Gardin.
Oui, Laura par Alain. Exemple, ou dans d'autres domaines. Hein, ça peut être sur Constance, sur des choses différentes. Mais oui, je trouve qu'elles y vont plus justement.
Alors, elles y vont. D'ailleurs, elles sont embauchées pour ça, elles sont talentueuses. Moi, je prenais un peu plus l'exemple, peut-être des humoristes un peu moins connus. Mais ça leur empêche pas aussi, malheureusement, les pauvres, d'avoir des soucis de temps en temps. Voilà. Je pars sur un autre sujet qui concerne aussi les mecs. C'est aujourd'hui cette liberté d'expression, peut-être, de temps en temps, faut faire attention, même sur... Là, je parle à la radio, il y a des radios où on m'a demandé gentiment de pas parler de certaines choses. Je trouve ça dommage, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ça va peut-être même plus loin que les filles, c'est peut-être par rapport à la radio, au lieu, au public. Et ça, c'est quelque chose qui est, selon moi, qui devient dangereux. Parce qu'encore une fois, on a fait ce choix-là d'aller sur scène. Les gens ont fait le choix de venir nous voir, ont payé leur place. Bah, c'est pas pour qu'on commence à se baïonner,
à se censurer.
Voyez, ouais, c'est ça, et à censurer. C'est un petit peu dommage. Mais pour assurer toutes les filles qui nous écoutent, les jours passent, les mois passent, les années passent, et les filles vont de plus en plus loin, sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus talentueuses. Donc c'est cool.
Oui, c'est carrément, c'est cool. À l'heure actuelle, le stand-up, c'est l'illusion de faire croire qu'on est en impro alors que c'est principalement écrit.
Alors oui, après, il y a plusieurs types de stand-up. On a chacun notre style. Alors oui, il y en a qui trichent, effectivement. Hein. Je ne vais pas mentir. Il y en a qui ont préparé l'impro. Mais après, il y en a qui sont vraiment doués en fonction de ce qui va se passer dans la salle, en fonction de ce qui va se passer sur scène, de la personne qui va arriver en retard ou qui va allumer son téléphone portable. Il y en a qui sont très, très forts pour rebondir. Et puis, il y en a d'autres qui ont préparé des choses. Voilà, au cas où... Radio Verdon me dit ça, je prépare telle ou telle vanne. Ouais, il y en a qui préparent. Mais principalement, quand même, le stand-up, comme je le disais au début de cette interview, c'est quand même, on est seul face au public. Donc, on est quand même obligé un petit peu de préparer. Hein. On a un texte, on a un sketch, etc. Mais moi, pour ma part, par exemple, moi, j'ai 70% d'écrit et 30% de « on verra bien, on va rebondir avec le public, voilà, ça va bien se passer
». Oui, on croise les doigts, quoi. C'est quand même un petit peu comme de l'impro, c'est ouais, potentiellement casse-gueule.
Bah, c'est ce que les gens aiment, en fait. Après, il faut être sûr de soi, mais les gens aiment beaucoup l'impro. On voit d'ailleurs les vidéos qui cartonnent le plus aujourd'hui sur le net. C'est le moment où, justement, l'artiste va aller voir la personne, la faire remarquer, rebondir sur ce qu'elle a dit. Les gens adorent ça. Les gens adorent ça. Et il y en a même qui vont même, des fois, je connais des gens sur Paris, qui vont, ils font exprès de prendre la parole et ils se font mais cartonner. Ils prennent des punchlines, comme on dit dans le jargon. Et ils se font limite humiliés. Ils aiment ça. Et les gens rigolent et en demandent. Donc, allons-y.
Alors, ça fait plus d'une dizaine d'années que vous faites ce métier. Ouais. On parlait tout à l'heure de l'évolution et du fait que peut-être maintenant, il y avait plus de difficultés à aborder certains sujets qui sont en rapport avec la société. Est-ce que le fameux adage « on peut rire de tout », est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ça marche ?
Moi, je le pense. Hein. Je pense vraiment qu'on peut rire de tout. Après, quelqu'un qui disait aussi « on peut rire de tout », mais pas avec n'importe qui. Il y a un humoriste qui s'appelle Thano, que j'adore, Thano, si tu nous écoutes, on sait jamais, qui dit « vaut mieux en rire que d'en pleurer », et je trouve que la phrase est géniale, mais c'est vrai qu'on sent quand même que c'est compliqué des fois, on se fait vraiment censurer. Moi, je me suis fait interdire des lieux parce que, après mon premier spectacle était très humour noir. Là, je suis beaucoup plus sur en dessous de la ceinture, donc bon, là, c'est un peu plus tranquille. Mais bon, quand même, on sent que ça m'a fermé des portes à certains festivals. On n'a pas voulu m'engager dans certaines radios, parce que je fais aussi de la radio, un petit peu de télé. C'est dommage. Après, je peux comprendre. Hein, on peut peut-être pas me voir partout, mais je pense qu'il faut faire à un moment donné la différence entre le Anthony Aguilar qui va monter sur scène et l'Anthony Aguilar de la vie de tous les jours. Vous voyez, ça où les gens ont un problème avec ça, c'est que des fois, la scène, c'est la scène. On est des comédiens, on n'est pas vraiment comme ça, même si on s'inspire beaucoup de notre vie personnelle. Mais bon, écoutez, on verra bien. J'espère que ça s'arrangera avec le temps.
Oui, mais d'un autre côté, je comprends bien qu'il faut faire une différence entre l'œuvre et l'artiste. Mais les choix des sujets et la manière dont vous les abordez, c'est quand même une partie de vous-même que vous livrez. Donc, vous n'êtes pas complètement désintéressé à cette affaire-là.
J'avoue que je mérite du sursis quand même. Je ne suis pas complètement coupable, mais un peu de sursis, allez.
Ah, ça marche.
Mais pas de prison ferme.
Ouais, on verra. Ça, on verra plus tard à la fin. Est-ce que on va vers un changement justement de ce rapport à l'humour ? Est-ce que l'humour potache, par exemple, marche encore ? Est-ce que là, vous disiez, le spectacle, il parle plutôt de d'hommes-femmes et de sexualité ? Est-ce que ça aussi, c'est encore quelque chose qui fait recette ? Ou de plus en plus, on va aller vers quelque chose d'autre ? Parce que il y a tellement maintenant une pluralité de publics, il va y avoir une pluralité d'artistes qui vont aller avec, et donc avec des artistes qui sont beaucoup plus ancrés dans des problèmes sociétaux.
Alors, il y a encore une affaire d'âge, je pense, parce que comme je disais au début, donc il y a, par exemple, on va prendre mes parents qui ont une soixantaine d'années. Voilà, je vais même un peu les rajeunir. Ils vont être contents. Mm-hmm. C'est un humour différent de l'humour que je vais avoir, par exemple, lorsque je vais jouer dans des bars pour étudiants.
Ouais. Voilà,
les bars pour étudiants, ils adorent la punchline, ils adorent que ce que je disais tout à l'heure, qu'on aille les titiller. Limite, il n'y a même pas besoin d'avoir de texte. On arrive, on prend le micro et toi, tu viens d'où ? Boum, bâche, 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 et on y va et on attaque. Ça, ils aiment bien. Ils aiment bien qu'on les fasse remarquer, ils aiment bien qu'on fasse remarquer les copains, etc. C'est un autre, c'est une nouvelle génération, hein. C'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux,
ouais.
C'est celui qui va aller le plus loin, etc. Alors que les personnes beaucoup plus âgées, on va dire, bah ils cherchent encore du texte, de l'histoire. C'est voilà, il y a un... Je dis pas, je veux pas faire de généralité, hein. Il y a aussi des personnes beaucoup plus âgées qui aiment bien ce que je viens d'énoncer pour les étudiants.
Mais oui, et puis il y a des étudiants qui aiment du des proches, hein.
Ouais, il y en a pas beaucoup.
Il y en a.
Oui, allez, il y en a 20 sur 200 000 étudiants.
Ah voilà, voilà, ils sont stigmatisés eux aussi.
Non, mais ouais, mais je le vois beaucoup. C'est différent, voilà, c'est différent. Après, c'est l'évolution, hein. Je veux dire, tous les arts ont évolué avec le temps. On a vu l'évolution du rock, on a vu l'évolution du cinéma. Bah, il y a aussi l'évolution de l'humour et du stand-up. À nous, humoristes aussi, de faire un choix. Est-ce que justement, on surfe sur la vague, on se dit maintenant, ce qui fait recette, c'est ça et je m'adapte. C'est un peu dommage parce qu'on vend son âme.
Bah ouais.
Ou est-ce que justement, au contraire, non, moi je reste. Moi, ce que je veux faire, c'est faire des jeux de mots. Ce que je veux faire, c'est de la magie ou parler d'humour noir. Et ben, je reste dans mon truc. Après, ça, c'est un choix personnel.
Il n'y a pas un moment quand même, quand on atteint une certaine notoriété, où on est obligé de faire quelques incisions à notre pensée en disant, bah ouais, mais là, si à ce moment-là, je veux marcher, il faut peut-être que j'abandonne quand même certaines choses.
Oui, bien sûr. Après, il ne faut pas non plus être buté. Hein. Moi, ça m'est arrivé de changer 2-3 trucs me permettant d'avoir des chroniques à la radio, de participer à certains festivals. Alors, je ne changeais pas complètement qui j'étais, mais on va dire que je faisais un petit effort.
On s'adapte, ouais.
Voilà, on ne va pas non plus être complètement buté. Mais après, ce que je dis, moi, c'était pour rejoindre ce que je disais, c'est de ne pas vendre complètement son âme, vous voyez ce que je veux dire. Donc, oui, après, je pense que c'est comme dans tout boulot, s'il faut faire à un moment donné des efforts pour avancer aussi. Hein. Et à un moment donné, comme vous dites, voilà, ça fait 10 ans que je suis sur scène, j'en vis, je suis pro, donc voilà, à un moment donné, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc, il faut aussi à moi de m'adapter et de pas non plus rester complètement buté en disant, sans ma star, et en disant, ok, il faut faire comme ça, j'ai décidé comme ça. Non. Et à un moment donné aussi, vous voyez, en ce moment, là, par exemple, je fais beaucoup de ton impro, ça vous l'avez compris. Et le thème principal aujourd'hui, c'est la Russie et c'est le coronavirus. Bah, je profite de cette actualité. Les gens, même si ça les gonfle, ils ont envie d'entendre des blagues sur la Russie, ils ont envie d'entendre des blagues sur le coronavirus. Donc on s'adapte. Moi, je suis pas non plus un fan.
Donc on était aux blagues sur la Russie. Pour ce coup-là, vous avez été un petit peu précurseur, non ?
Ah, c'est marrant ça. Je vois qu'on a vu un petit peu mes vidéos.
Bah, je suis allé voir quand même.
Effectivement, ouais, c'est marrant. Et ben, aujourd'hui, je suis un petit peu obligé d'adapter mon spectacle puisque bah maintenant, à l'époque, ça faisait rire. Aujourd'hui,
ça doit faire grincer un peu des dents, ouais.
Et ouais, on voit les Russes comme des super méchants, donc il faut que j'adapte un peu le truc. Hein. Mais effectivement, pour ceux qui connaissent pas mon univers, je suis marié donc avec une Russe et je parle un petit peu de mes aventures en Russie, l'adaptation de ma femme ici en France. Donc oui, alors je sais pas si c'est précurseur, mais il y a beaucoup de sketchs où je fais passer justement mon beau-père, ce qui est vrai, hein, il est un peu en mode Poutine, il est très froid, etc. Ils veulent toujours nous exploser, donc c'est vrai que ça ressemble un petit peu à l'actualité. Mais c'était plus mafia que armée.
Quand même une petite phrase sur la Russie qui envahit l'Ukraine. Hein.
Non, après ça fait très longtemps aussi qu'ils envahissent. Enfin, je crois que c'est depuis 2014.
2014, ouais. Bah, 2011 en vrai même, ouais.
Ouais, ça a commencé il y a longtemps, la Géorgie, la Moldavie, etc. Donc, il y a plusieurs zones comme ça un peu sensibles. Bon, après, voilà. C'est géopolitique, on est là pour se marrer, donc on va continuer avec l'humour.
Est-ce que le stand-up, vu que c'est des ressorts personnels aussi que l'on utilise, hein, parce qu'on va être plutôt dans l'autodérision, est-ce qu'on est forcément drôle ou est-ce qu'il y a un équilibre comme ça entre, certes, une suite de vannes, mais aussi des moments qui peuvent être plus intimes, plus sincères, plus dans l'émotion ?
Oui, déjà d'une, parce que moi je crois pas au spectacle, on va se marrer, même s'il y a des gens très talentueux, il y a un moment donné, faut calmer le truc, quoi. Bon, je connais des spectacles là, extraordinaires où vous marrez toutes les 4 secondes, il y a des blagues, mais même ces gens-là, il y a un moment donné, ils sont obligés de calmer le truc. Bah, dans tout spectacle, pour moi, pour un bon spectacle, il faut aussi qu'il y ait à un moment donné ce petit côté émotion, quelque chose, puisqu'on parle de nous, donc à un moment donné, la vie est pas toujours, est toujours drôle, donc on peut rendre hommage à quelqu'un qu'on a perdu, on peut parler de certains problèmes. Et je pense qu'il y a, même si on peut tout traiter avec humour, il y a ce petit moment où il faut calmer et avoir effectivement, comme vous dites, une certaine honnêteté. Et moi, dans mon spectacle, il y a des moments comme ça où je calme le truc et pendant 30 secondes, j'explique quelque chose et derrière, ça permet de réenchaîner avec avec des vannes, quoi.
Oui, c'est ça. Ça permet aussi de rebondir derrière et d'installer une situation.
Exact.
Alors, le stand-up, c'est a priori un micro, une personne, une scène, un public.
C'est ça, c'est bien résumé. Ouais.
Ce qui veut dire que on a besoin de rien et qu'on peut jouer un petit peu partout. Est-ce que quand on fait du stand-up, c'est-à-dire vraiment dans le dénuement le plus complet, on a quand même envie d'aller à un moment vers quelque chose d'un petit peu plus travaillé, sophistiqué, que ce soit au niveau de la mise en scène ou des costumes, des décors, ou est-ce que vraiment il y a un côté puriste du stand-up où on mélange pas encore trop les disciplines?
Alors, c'est une excellente question et je vais y répondre.
Chouette.
Effectivement, donc voilà, comme vous pouvez voir, notamment aux États-Unis, en Angleterre, ils sont restés comme ça, où la seule mise en scène, c'est lorsque l'artiste arrive du backstage jusqu'à son micro et repart. Voilà, c'est tout pour moi, merci. Donc là, il y a encore des puristes, chose qu'on voit pas tellement en France. Et parce qu'en France, on aime bien quand même raconter plein de blagues, on n'est pas trop longue histoire. Comme vous pouvez voir dans le stand-up américain ou anglais, vous avez une très longue histoire qui est drôle et avec une vraie chute. En France, on est beaucoup plus les vannes, même si aujourd'hui on commence à se mettre un petit peu au modèle anglo-saxon. Et pour revenir à ce que vous me demandiez, oui, on est tenté. Moi, dans mon spectacle, puisque vous avez vu certains extraits, il y a un petit peu de musique. Je fais quelques personnages, donc je suis pas non plus dans le vrai stand-up. Je rajoute de l'imitation. Enfin voilà, il se passe plein de choses, donc je suis tout le temps tenté de rajouter des petites choses, vous voyez. Au début c'était puriste et puis au final il y a des personnages qui n'étaient pas prévus parce qu'ils me font marrer, parce que les gens aiment bien, donc je les fais. Il y a deux trois imitations que je tiens bien, donc je les cale aussi dans le spectacle. Donc je pense que après, encore une fois, c'est un choix de la part de l'artiste. L'artiste se dit voilà, moi c'est mon style, après tout je suis là avant tout pour me faire plaisir. Voilà, hein, moi c'est ce que je me dis à chaque fois, si c'est pas drôle, je laisse tomber. Mais par contre, quand je commence à faire un sketch qui me fait plaisir et que je vois que ça fonctionne, je le garde comme ça.
Vous n'êtes pas loin géographiquement ?
Non, je suis de Cannes.
Voilà. Et donc si on a envie de vous retrouver sur scène à d'autres moments qu'à cette soirée-là, est-ce qu'on peut retrouver les dates ? Est-ce qu'il y a des choses de prévues là prochainement ?
À se réveiller, donc oui, le mieux c'est encore une fois de me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, hein, à Aguilar, donc officiel, et là je vous tiendrai au courant. Mais c'est vrai que les scènes ouvertes, on va dire au public, où vous payez votre entrée et venez voir mon spectacle, il n'y en a pas tellement, j'en ai pas beaucoup pour l'instant. Effectivement, là j'ai Castellane qui arrive, et notamment aussi j'organise un très gros festival qui s'appelle donc Les Humoristes de Cannes font leur festival, c'est sur 3 jours. C'est le 28, 29 et 30 octobre. Et notamment, le 29, vous avez la grande finale qui s'appelle le Gala de l'humour cannois. Je suis un peu partout en France. J'étais à Toulouse la semaine dernière. On a des plateaux qui se sont mis en place un peu partout. Et chaque plateau choisit son gagnant. En fait, vous avez donc un tremplin. Là, il y avait une vingtaine d'humoristes. Et chaque humoriste s'affronte. Il y a un jury, il y a un public. Et celui ou celle qui gagne se voit directement qualifié pour la grande finale à Cannes où il affrontera ses autres petits copains qui viennent de Paris, de Strasbourg, et pas seulement qu'en France, puisque on aura aussi Barcelone, la diaspora française de Berlin et de Charleroi. Vous aurez les 10 futurs grands talents de l'humour, qui se verront s'affronter à Cannes, et on verra bien qui gagnera le grand trophée.
Et en attendant, on peut retrouver les différentes dates à venir sur les réseaux.
Voilà, j'adore ma vie.
C'est super. Donc on peut vous retrouver à Castellane, c'est donc le 8 avril à la salle des fêtes. Et en plus, c'est même pas payant parce que c'est offert par la mairie.
Et puis je serai accompagné donc de deux copains humoristes incroyables, Stéphane David et Steph. Ouais, ils sont ça va être une super soirée. Franchement, amis de Castellane et des alentours, venez, quoi. Vous pouvez pas louper ça.
Allez, c'est noté. Merci beaucoup.
Merci à vous, c'était bien sympa.